et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier.
Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu si vous nous rejoignez. Il est l'heure du Canu Info de ce jeudi 15 octobre. Alors ce soir on va vous parler entre autres de Thomas Sankara, on parlera d'Arabie Saoudite et des amitiés déçues. Nous parlerons d'une fusion très importante dans le secteur de la bière, ce sera pour le petit point capital de ce soir. On parlera aussi de flics contre la justice, de chasseurs par exemple. On parlera par exemple aussi du journal d'Anne Frank, du vélo en ville, de Montréal et ses eaux usées. Et puis nous aurons aussi une page nucléaire. Mais ce soir, Laurent, c'est toi qui vas ouvrir avec évidemment Israël et Palestine.
Oui, parce qu'il fallait faire quand même un petit point sur les violences, comme on dit, qui ont lieu en ce moment dans la région. Donc, les nouvelles du jour, pour commencer, avec les forces israéliennes qui se sont déployées massivement ce jeudi dans Jérusalem. Alors, ces forces israéliennes, c'est pas simplement des flics, donc des policiers, mais c'est aussi des gardes frontières, c'est-à-dire l'armée, hein, qui commence à s'installer un petit peu partout, sur les places publiques, dans les carrefours, sur les grands axes, aux arrêts de bus, dans les gares. En plus, devraient arriver dimanche 300 nouveaux soldats, toujours à Jérusalem, qui viennent renforcer donc l'armée et les policiers déjà en place. Ça rappelle un peu les gros déploiements hein, qu'on avait dans les villes israéliennes au moment de la deuxième intifada, là, il y a une 13 années à peu près, hein, c'était aux alentours de 2002. Donc, l'idée de tout ça, c'est un peu comme chez nous avec le plan Vigipirate, hein, l'armée vient pour soi-disant endiguer les violences, bon, surtout pour rassurer la population israélienne hein, qui a peur de ces fameuses attaques qui vont du couteau au pistolet. Hein. Un pistolet est apparu dans les dernières attaques de terroristes, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelle ces attaques-là, ce qui est le terme est assez juste, hein, parce que ça crée la terreur. Il faut quand même voir que du côté israélien, la population a vraiment peur, avec des réactions diverses, notamment la prise d'assaut, voilà, économique, en tout cas des armureries, hein, puisque voilà, les Israéliens juifs, essentiellement, achètent des armes hein, pour tirer sur le premier Palestinien qu'ils vont croiser. Avec ou sans couteau d'ailleurs, c'est le risque finalement de quand on surarme, quand on arme une population, on a le risque de ces tirs non justifiés, même si les autres ne le sont pas forcément, mais quand on se défend, on peut comprendre l'idée de se défendre. En tout cas, c'est pas la solution, bien évidemment. Alors, le mouvement de panique crée des choses drôles, finalement, hein, puisque on a des gens qui se mettent à crier, les policiers arrivent, il s'était rien passé, ils ont juste vu un arabe, mais il avait rien de fait de spécial, ni de couteau, ni quoi que ce soit. Voilà, il y a un vrai sentiment compliqué, difficile, de haine, de racisme, qui se réinstalle encore plus des fois qu'il soit pas suffisamment présent. déjà. Alors, si on regarde, qu'on sort un petit peu de Jérusalem, on regarde autour, c'est pire, hein, on va dire, puisque alors la route qui va jusqu'à Hébron, vous savez, Hébron, c'est la pire ville du monde, peut-être au niveau de la haine du racisme mis en place par une politique néocoloniale, hein, puisque les Palestiniens en perdent des bouts de ville, ils sont fouillés par les Israéliens, soi-disant au nom de leur propre sécurité, hein, assez drôle. Et effectivement, cette route-là, elle est jonchée de checkpoints, il y a des contrôles de partout. Grosso modo, la population palestinienne a perdu beaucoup de sa liberté de circulation. Tout ça pour quelques attaques. Alors si on fait le bilan, ces quelques attaques ont quand même fait 7 morts du côté israélien et au moins 30 morts du côté palestinien. Du côté israélien, une dizaine de blessés et une centaine du côté palestinien. Il y a comme d'habitude une différence importante dans l'échelle des morts et dans l'échelle des blessés, parce que forcément en face on a des Palestiniens qui sont assez peu armés, hein, au pire ils ont des couteaux en général, au mieux des pierres, et de l'autre côté on a l'armée et les forces de police ou les colons ou les Israéliens qui sont armés d'armes à feu, donc forcément le niveau est pas le même. Donc voilà la situation aujourd'hui. Alors tout le monde dit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de solution qui va arriver dans les jours qui viennent, puisque tout le monde reste sur ses positions, notamment Benjamin Netanyahou. Mais c'est pas mieux du côté de Mahmoud Abbas, qui a enfin parlé hier à la télé. Ça faisait 15 jours qu'on attendait qu'il ouvre sa gueule. C'est vraiment le pire dirigeant, hein, qu'est l'autorité palestinienne depuis... il n'y en a pas eu beaucoup. Avant, il y avait Yasser Arafat. Yasser Arafat qui était un ancien combattant, qui avait donc une espèce d'aura et de respect énorme dans la population. Mahmoud Abbas, il arrive, il n'a pas tout ça, et il gère très très mal les choses. Mais il est quand même embêté, il faut se mettre à sa place aussi. Donc hier, il a fait un discours à la télévision. Donc il a annoncé son soutien au mouvement pacifique et populaire palestinien. Donc en commençant comme ça, il se dit, bon, oui, faut rappeler que avant ces attaques qui sont ultra médiatisées au niveau mondial, et notamment en France, il y a aussi toutes les manifs qui ont lieu en ce moment en Palestine, toutes les réactions dites violentes de la population, quand l'armée arrive, ils jettent des pierres. Donc on rappelle, c'est d'où le nom Intifada, hein, ça vient de là. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, les Palestiniens, quand ils se rebellent, soit ils manifestent, soit ils jettent des pierres, trois pauvres cailloux, face aux armes automatiques de l'armée israélienne ou des colons israéliens, qui marchent main dans la main, bien évidemment. Donc voilà, il se met en soutien du côté des manifestants pacifiques, il a bien dit pacifiques, pour pas tout mélanger. Bon. Grosso modo, il n'a pas parlé des attaques et il n'a pas condamné non plus les attaques des Palestiniens. Ce qui fait que il est dans une position hyper ambiguë, il n'ose pas dire les choses, mais le côté positif, c'est qu'il ne condamne pas ces attaques. Alors, il aurait pu le faire quand même symboliquement, parce que ces attaques individuellement sont condamnables. Ce qu'elles représentent est par contre analysable, et là on pourrait, et Mahmoud Abbas aurait dû faire ça, en disant regardez à quel point la population palestinienne est désespérée, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule solution, que des jeunes désespérés attaquent au couteau des Israéliens, et qu'en général ils se fassent descendre par la police derrière. Donc c'est un suicide en marquant les symboliquement la population qui les opprime. Il n'a pas fait ça, et c'est bien dommage, parce que c'est ça qui est important, hein, c'est pas ces pauvres petites agressions qui ont tué certes quelques personnes, mais pourquoi et comment faire. Et lui, il pourrait essayer de faire des choses, même si voilà, il a quand même essayé de faire des choses. Là, on le sent quand même très timoré, ce pauvre président de l'autorité palestinienne, avec en face Israël qui réagit pas, si ce n'est qu'elle continue de renforcer sa présence coloniale en Cisjordanie, en envoyant encore une fois l'armée systématiquement et en empêchant les forces de sécurité palestiniennes de jouer leur rôle. Du coup, on a cette présence coloniale qui accentue encore la haine et l'envie de se battre, hein, des populations palestiniennes, et une envie de se battre qui est totalement légitime, hein, quand vous êtes occupé par des colons, des extrémistes, des racistes et des assassins, vous êtes forcément en droit de réagir. Et bon, voilà, la situation finalement, elle est ce qu'elle était jusqu'à maintenant, si ce n'est ces accidents qui sont un peu plus nombreux et qui apparaissent. Mais grosso modo, on en parle beaucoup et finalement, la situation israélo-palestinienne n'a pas beaucoup évolué, à part voilà, c'est une dizaine d'attaques qui ne représentent rien à l'échelle de l'ensemble de la population qui souffre tous les jours de la présence israélienne. Donc voilà, on instrumentalise un peu beaucoup ces choses-là. On notera quand même l'intervention de monsieur Nasrallah, vous savez, Nasrallah, le chef de droit divin presque, du Hezbollah, le parti de Dieu, ça veut dire ça, le Hezbollah, qui a soutenu donc ce qu'il a appelé l'intifada ou la résistance palestinienne. On n'attendait pas moins de lui, bien évidemment, hein, mais bon, ça changera pas grand chose que le Hezbollah fasse ça à travers Hassan Nasrallah.
Alors on va parler d'Arabie Saoudite maintenant. Aujourd'hui, le 135e condamné à mort a été exécuté en Arabie Saoudite, 135e depuis le début de l'année. Alors il y a plein de contacts, hein, de la part des pays européens avec l'Arabie Saoudite. C'est un partenaire économique, c'est un ami contre le terrorisme. Et alors en Grande-Bretagne, il y a dû y avoir une marche arrière de la part du gouvernement et de Monsieur Cameron. Il faut dire qu'en phase 2, il y a eu une pétition avec 90 000 signatures qui a été mise sur la table. Alors sur quoi ils ont reculé, le gouvernement et M. Cameron? Eh bien, ils ont finalement renoncé à participer à un appel d'offres visant la formation des gardiens de prison saoudiens. C'était pas un gros contrat, hein, c'était moins de 8 millions d'euros, donc finalement un contrat assez modeste. Il faut savoir qu'à côté, Londres vend des armes pour plus de 5 milliards d'euros à l'Arabie Saoudite, donc finalement un petit contrat, mais ça a fait beaucoup de polémiques. En Grande-Bretagne, certains et certaines ont rappelé que c'était quand même bizarre d'aller aider à bien former des matons, alors que c'est ces mêmes matons qui répriment, qu'on sait qu'il y a de la torture, que il y a toutes ces exécutions, bien évidemment. Donc ça en a choqué certains et certaines, hein, quand même, de l'autre côté de la Manche. Et puis, au milieu de tout ça, il faut dire que il y a cette affaire avec un Britannique de 77 ans, Karl, qui habite l'Arabie Saoudite depuis 25 ans et qui s'est pris un an de prison ferme et 350 coups de fouet, hein, une condamnation quand même assez importante. Pourquoi? Parce qu'il s'est baladé avec des bouteilles de vin dans son coffre, chose absolument interdite, prohibée, du vin artisanal, je tiens le souligner. Et donc, au milieu de cet appel d'offres apparaît cette affaire, ce qui n'a pas vraiment aidé Monsieur Cameron à maintenir, hein, cette décision de répondre à cet appel d'offres. Alors, officiellement, ce volte-face n'a rien à voir avec le contexte. Non, ce ne sont que des affaires techniques et pratiques qui empêchent le gouvernement de répondre à cet appel d'offres. Mais il faut savoir que, a priori, il y a eu beaucoup de controverses au sein même du gouvernement. Ça s'est un peu tapé dessus. La polémique a enflé. Et puis, ben, finalement, il y a donc cette décision. Alors, pendant ce temps-là, en France, Monsieur Valls s'est gargarisé, tout heureux qu'il est de son voyage à Riyad. C'était en début de semaine. Il est très heureux. Il a tweeté là-dessus. Lundi, il a déclaré à la presse que ici, c'est le nouveau monde, en parlant de l'Arabie Saoudite. Oui, c'est ça ce qu'il a dit. Ici, c'est le nouveau monde.
Donc un monde sans liberté, où les femmes n'ont pas le droit de conduire, on n'a pas le droit d'avoir d'alcool dans le coffre.
C'est
on
le nouveau
pas
monde capitaliste, Charles-Laurent. Ouais. Ne te trompe pas. Alors, ce qui est très drôle quand même, c'est que Monsieur Valls s'est fait un peu trimballer, puisqu'il paraît que mardi, il a attendu une heure dans le hall de l'hôtel Ritz-Carlton, un grand palace. C'est-à-dire que du côté saoudien, on est dans un royaume quand même. Donc on fait un peu attendre les autres. Monsieur Valls a fait un discours lors du dîner de gala du Forum franco-saoudien. Il était accompagné, comme toujours, d'un certain nombre de représentants d'entreprises, de PME, de multinationales. Il y avait EDF, la SNCF, Alstom, Veolia, Airbus, qui accompagnaient Monsieur Valls. Alors, Un autre point rigolo, c'est que M. Valls a fait savoir à ses interlocuteurs saoudiens que ce qui s'était passé avec Air France n'avait rien à voir avec la vraie France. Hein. Globalement, c'est un peu ça son discours. C'est-à-dire que c'est pas la France des réformes. Hein. Il faut pas se laisser avoir par ces images que les investisseurs ont pu voir. Ce n'est pas la France. Il a tenu quand même à le dire. Par contre, évidemment, tout le monde l'attendait un peu pour savoir s'il allait parler des droits de l'homme.
Et alors ? Donc, est-ce qu'il a dit que c'était mal de fouetter cette personne, de fouetter un blogueur, de le condamner un blogueur à mort ? Est-ce qu'il a dit quelque chose là-dessus ?
Alors, il paraît que la question a été abordée lors de l'entretien avec le roi.
Alors, quand on dit ça, c'est qu'on dit rien, en fait. Alors, c'est, chaque fois, c'est dit ça, et on n'a pas du tout les propos, donc c'est qu'en fait, ils n'ont rien dit.
En fait, dans l'entourage du gouvernement, il y a des super arguments. C'est-à-dire que l'idée, c'est que mieux les relations commerciales iront avec l'Arabie Saoudite, la France va pouvoir avoir des discussions sur les droits de l'homme.
Non mais ça fait 20 ans qu'il y a cet argument-là au moins, et il n'y a pas un pet d'évolution dans cette dictature, hein, voire même ça régresse. Donc il faudra qu'ils arrêtent de nous utiliser cet argument-là qui ne fonctionne pas. Qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils assument, disent nous, on est prêts à collaborer avec tous les fascistes, avec tous les dictateurs, avec tous les salauds, les assassins, à condition qu'on gagne de l'argent. Et là, au moins, on n'aurait rien à leur reprocher s'ils faisaient ça.
Ben alors, c'est ce que M. Fabius a déclaré il n'y a pas très longtemps, en disant qu'on ne peut pas faire du commerce uniquement avec des États qui sont impeccables sur le plan humain. C'est ça. Non mais c'est clair, les choses sont claires.
Ouais, entre impeccable et le pire, il y a quand même une énorme marge de manœuvre.
Ouais, alors bon, tout ça, c'est très chouette. Hein. Monsieur Valls s'est donc emballé sur Twitter. 10 milliards d'euros de contrats, a-t-il expliqué. Le gouvernement mobilisé pour nos entreprises et l'emploi, a-t-il écrit. C'est bien beau tout ça, mais 10 milliards d'euros, dont 3 milliards fermes, on est loin des 50 milliards discutés en juin lors d'un déplacement du Royaume saoudien en France. Ça reste petit, donc c'est des grandes annonces. Alors oui, je parle en milliards, bien sûr, hein, vous devez me dire, attendez, milliards, Delphine. Non, mais en fait, c'est que dalle. On est très loin des engagements qui avaient été soi-disant pris. Donc, en substance, pour l'instant, les relations commerciales, elles restent assez flou pour faire avancer les dossiers des droits de l'homme, quand même, il faut le reconnaître. Bon, 3 milliards ont été engagés fermes sur des choses assez moyennes. Bon, à côté de ça, effectivement, on peut dire que Veolia, Alstom et Engie entrent en négociation avec les autorités saoudiennes sur des dossiers assez importants. Veolia, par exemple, pour la gestion du réseau de l'eau, ça représente 3 milliards d'euros. Alstom, pour le métro de Riyad, c'est 1 milliard d'euros. Et Engie, pour la distribution de l'énergie, pour 1 milliard d'euros. Donc voilà, c'est aussi ça, hein, c'est évidemment placer les multinationales qu'on dit françaises, même si aujourd'hui ça semble toujours un peu bizarre de donner une nationalité à ces multinationales. Le prince héritier est attendu en novembre à Paris, hein, donc les relations continuent. Monsieur le Valls tient à préciser que l'importance est cette perspective, cette dynamique. Alors c'est ce que doivent se dire Raif Badawi, Ali Mohamed Al-Nir, tous les deux dans une bien mauvaise situation, et puis tous les autres, évidemment, parce que c'est certainement actuellement les deux plus connus et les deux plus cités. Mais voilà, la dynamique économique va aider pour les droits de l'homme.
Alors, aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre 2015. Et justement, toujours en lien avec les mauvaises influences, les mauvaises alliances de la France, de l'État français qui aime bien les dictatures, hein, on va remonter au 17 octobre 87. Donc ça fait 28 ans, très exactement, que Thomas Sankara, hein, porteur de la révolution du Burkina Faso, a été assassiné. Donc aujourd'hui, c'était le 28e anniversaire de sa mort, avec pas mal de manifestations au Burkina Faso. Donc, faut savoir quand même que c'est le premier anniversaire de la mort de Thomas Sankara sans Blaise Compaoré. Donc Blaise Compaoré, hein, pour la petite histoire, c'est lui qui a fait tomber Thomas Sankara il y a 28 ans. Pas tout seul. Hein. Il y avait la France, il y avait plein d'autres gens derrière lui. Il fallait faire tomber ce révolutionnaire qui était trop à gauche et pas assez français. ou proche de la France en tout cas. Donc c'est voilà d'où vient le truc et d'où le contexte un peu particulier à ce 28e anniversaire. En tout cas au Burkina, alors il y a plein d'autres choses, c'est que depuis qu'il y a le nouveau gouvernement de transition, la justice commence à bouger un tout petit peu au Burkina Faso. Il y a eu notamment on a déterré les corps des victimes, on a exhumé, ça, je cherchais le mot, les corps des victimes de ce 15 octobre 1987, je vais y arriver. Notamment le corps qui serait le corps de Thomas Sankara pour faire des analyses dessus, savoir comment ils étaient morts, donc il y a plein de recherches dessus. Donc c'est la première année, par exemple, qu'il n'y aura pas le recueillement dans le cimetière dans lequel étaient ces corps, puisque ils ont été donc enlevés. Mais il y a plein de choses qui se passent dans le Burkina Faso, notamment pour expliquer aux jeunes ce que c'était Thomas Sankara, pourquoi il a été assassiné, et tous ceux qui ont participé, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Alors faut savoir que sur la justice, il y a déjà des petites infos qui sont sorties. Notamment que dans les corps retrouvés, il y a de fortes présomptions qu'il y ait bien Thomas Sankara dans ce cimetière. Il y a des tests ADN qui sont en cours, qui vont confirmer normalement cette thèse. Par contre, ce qu'on sait, c'est que tous les corps étaient criblés de balles. Donc déjà, c'était vraiment des assassins. Enfin, ceux qui étaient enterrés ont bien été assassinés. Alors, la manifestation de vérité dans ce dossier commence à apparaître, grâce au fait que le président dictateur précédent ait été exclu par la population. Hein, on rappelle que Blaise Compaoré a été viré du pouvoir manu militari, que c'est la France hein, qui l'a aidé à partir et à pas se faire massacrer, en tout cas surtout emprisonné par la population. Vraisemblablement, la France le protège pour pas qu'il raconte, hein, parce qu'il est au courant de ce qui s'est passé. Et le deuxième coup dur hein, pour les ceux qui cachent la vérité historique sur ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est Gilbert Diendéré. Alors, si vous vous rappelez, Gilbert Diendéré, c'est le dictateur, c'est le militaire qui a fait le coup d'État qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui n'a pas marché, et du coup, il est lui aussi en ce moment en prison, hein, la maison d'arrêt, très exactement, de l'armée. Donc vraisemblablement, la justice va pouvoir enfin avancer, puisque les deux principaux protagonistes, vraisemblablement, de l'assassinat de Thomas Sankara, sont soit hors du pays, soit en prison. Voilà. Alors, il y a quand même de grands espoirs pour qu'on sache un petit peu plus ce qui s'est passé. Même si, on rappellera que les demandes qui ont été faites en France d'ouverture des archives ont été refusées hein, par les élus de la République. Et donc, nous n'aurons pas la version française. Et on sait que la France, en aidant les pays autour, notamment les pays qui ont soutenu Blaise Compaoré et ses amis, la France est bien intervenue pour aider les assassins de Thomas Sankara. Donc voilà, 28 ans, commémoration de la mort de ce grand révolutionnaire africain.
Ah, écoute, on va parler toute autre chose. Maintenant, on va parler de bière.
Ouais. Ça détendra un petit peu.
On va parler d'économie en même temps. Hein,
ouais, donc c'est pas drôle non plus, tu veux dire.
Non, on va parler bière quand même. Comme ça, vous aurez un petit peu une idée quand même de ce que vous buvez.
Tu sais qu'en Arabie Saoudite, t'aurais pas le droit de parler de la bière.
Alors, je vais en parler quand même. Tu as une idée du nombre de litres de bière qui ont été bues à l'Oktoberfest de Munich?
Ah non, ça doit être un truc assez faramineux.
Plus de 7 millions de litres.
Ah ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal, hein, quand même. Alors, effectivement, si je vous parle de bière, c'est parce qu'il y a une énorme fusion qui va certainement se produire d'ici peu dans le secteur de la bière. C'est les multinationales AB InBev et Sam Miller qui ont validé mardi cette fusion après des semaines de négociations. AB InBev, c'est le numéro un mondial de la bière. C'est Budweiser, Leif Stella. C'est un sacré paquet de marques. Sam Miller, c'est Pilsner, Miller, c'est le deuxième mondial. Donc, c'est pour ça que c'est gros. C'est que le premier et le deuxième veulent s'unir. Alors, il faut savoir qu'AB InBev met quand même 100 milliards d'euros sur la table hein, pour cette affaire. C'est quand même, là aussi, dans des grosses sommes. C'est l'un des plus grosses fusions, des plus gros rachats conclus dans l'histoire du capitalisme. Selon le cabinet d'études Dealogic, qui est cité par Libération, il s'agit de la troisième plus grosse opération financière. Donc c'est un truc assez énorme. Il faut savoir que selon l'OMS, la bière est aujourd'hui le deuxième alcool le plus consommé au monde.
Et donc le premier c'est le vin.
C'est tous les spiritueux mélangés, 50% du marché, ah oui. Et le vin c'est troisième, excusez-moi, avec 8%. 34% pour la bière. La production annuelle, c'est 200 milliards de litres dans le monde. C'est en pleine explosion. Donc, c'est un marché en plein développement qui faiblit pas. Alors, il faut se rendre compte que ils vont contrôler une grosse part du marché. Une bière sur trois vendue dans le monde le serait par ce géant. Ça représente 60 milliards de litres vendus annuellement. Je vous laisse calculer en nombre de demi. Hein. Combien il y a de demi dans un litre? 60 milliards de litres vendus, ça va? Vous avez fait le calcul? Ça va. C'est deux multinationales qui pourrait peser 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires, concerner 224 000 salariés, collaborateurs, et puis s'étendre dans une centaine de pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est de suivre aussi l'évolution du nom, parce que ça marque un petit peu les acquisitions menées ces dernières années. En 2004, c'est Interbrew qui est devenu InBev à la suite de l'acquisition d'une entreprise brésilienne Ambev. En 2008, Ambev avait racheté Anheuser-Busch, AB, qui détenait la marque Budweiser et qui donc devient AB InBev. Enfin, vous voyez, à chaque fois, donc, il y a eu un petit peu des modifications dans le nom. Alors, en 2012, il y avait une autre acquisition qui n'avait pas changé le nom. C'était AB InBev avait pris le contrôle de Grupo Modelo, brasseur de la marque Corona, pour 20 milliards de dollars. Alors, bon, les autorités de la concurrence pourraient retrouver à y redire, mais il faut savoir que le principal actionnaire de Sam Miller, le cigarettier Altria, oui, on reste quand même un peu entre alcoolier et cigarettier, a accepté hein, le pacte, mais il faut dire que bon, voilà, il y a un petit peu de l'argent hein, quand même qui est mis sur la table. Alors pour AB InBev, l'idée c'est pas tant de se développer sur des marchés européens ou nord-américains, qui sont où la multinationale est largement implantée, c'est plutôt de profiter des implantations de Sam Miller, en particulier en Afrique, et puis de viser l'Asie, hein, parce que c'est un gros continent. Alors, pour l'instant, par exemple, en Chine, on boit 32 litres de bière par habitant par an, c'est un petit pays de consommation. Les Tchèques, par exemple, c'est 148 litres.
Ah ouais.
Grand gagnant.
Ah ouais, quand même pas mal.
Ouais, en France, c'est 30 litres.
Oui, on est un pays traditionnellement plutôt buveur de vin.
Ouais, mais c'est pareil, hein, c'est aussi en pleine augmentation. Toute cette augmentation, elle se fait aussi parce qu'aujourd'hui, les alcooliers développent tout un tas de produits. Alors, en France, pour certains alcools, il y a une publicité qui est contrôlée, mais au niveau des produits, dans certains pays, c'est pas du tout le cas. Donc, les alcooliers en profitent particulièrement. Mais c'est aussi la mise sur le marché de tout un tas d'alcools plus sucrés. Alors, on trouve des bières maintenant à peu près à tout aussi dégueulasses et chimiques. Des bières à la pêche, par exemple, dont on a pu voir il n'y a pas très longtemps sous nos yeux avec Laurent.
C'était pas de la bière, hein, c'était de la, voilà, pisse à la pêche.
C'est tout un tas c'est un nouveau marché, en fait, qu'ils sont en train de développer les alcooliers.
Et ils avancent toujours masqués, parce qu'en fait, il y a plein de marques différentes. Et en fait, c'est la même multinationale, un peu comme Unilever fait avec d'autres produits, où on sait jamais... bon, le mieux, c'est d'acheter une bière locale, et là, parce qu'on sait d'où elle vient. Mais sinon, c'est vrai qu'ils sont assez forts hein, pour nous faire croire qu'il y a plein de produits différents, mais en fait, c'est la même marque.
Ouais, je suis sûr qu'il y a plein de gens ici, là, vous nous écoutez, qui se disent, par exemple, que Cronenbourg, ah, bah, ça sonne bien français, ça.
Mais il paraît que c'est français, non?
Non, c'est Carlsberg.
Oh merde.
Voilà, ben non. Loupé.
C'est pas
bon,
pour
voilà,
dire que l'accro, c'est bon.
C'est effectivement ça, c'est qu'effectivement, ouais. On sait plus bien les marques à qui ça appartient. Ben, sachez que la plupart des marques de bière que vous allez pouvoir consommer en grande distribution, elles vont devenir de ce groupe, tout simplement.
Voilà. Et ça reste international. Alors, il y a peut-être encore des usines un peu partout. Hein.
C'est la question, ça n'empêche pas. Mais voilà. Voilà. On a quand même une concentration financière assez intéressante.
Voilà. Privilégions donc les bières locales fabriquées localement. On poursuit, alors on va parler un petit peu de la fameuse bataille entre les flics et la justice suite à cette agression d'un flic, vous avez tous entendu parler, des syndicats de keufs qui sont montés au créneau et qui ont fait parler d'eux, et qui sont bien vus de la part des médias dominants, du coup on a eu beaucoup leur discours. Plutôt que de faire une analyse, je vais vous lire simplement le communiqué qui a fait le collectif Liberté, Égalité, Justice, qui contient beaucoup d'avocats ou de gens de la justice par rapport à ce qui s'est passé. Et je pense que ça résume pas mal ce qu'il faut plutôt penser de la situation actuelle. Donc le communiqué de presse a été publié hier, le 14 octobre 2015. À midi, les sirènes des syndicats de policiers vont hurler sous les fenêtres du ministère de la Justice et devant les palais de justice pour demander plus de moyens, une légitime défense de principe et dénoncer une rupture avec la justice, fantasme né du prétendu laxisme de la politique pénale. Face à l'extrême violence exercée contre un policier dans l'exercice de ses fonctions le 5 octobre, l'émotion est légitime. Son instrumentalisation ne l'est pas. Pas plus que l'empressement d'un gouvernement à répondre à l'emballement médiatique. Autant d'errements que l'on croyait révolus. Les syndicats de policiers font le choix de la démonstration de force et prétendent répondre au malaise réel de leur profession en profitant de ce fait dramatique pour accuser la justice, sa ministre de tutelle et ses acteurs. C'est par un raccourci relevant de la manipulation qu'ils tentent d'attribuer à l'institution judiciaire la responsabilité du geste d'un individu. Cette récupération corporatiste incriminant une politique pénale laxiste et une justice hors des réalités ne résiste pas à l'analyse. Parce qu'elle s'inscrit dans un processus de re-socialisation, la permission de sortir est une étape bien souvent indispensable dans le parcours d'une personne détenue. Elle permet d'effectuer une démarche administrative, une recherche d'emploi, de maintenir les liens familiaux ou tout simplement de réapprendre la vie dehors. Ces permissions de sortir sont strictement encadrées par la loi et font l'objet d'un examen individualisé par une instance collégiale, la commission d'application des peines. Les débats qui s'y déroulent appréhendent de manière concrète la situation de la personne détenue, ses antécédents, son projet, les conditions dans lesquelles peuvent se dérouler sa sortie. Le risque de non-réintégration, toujours irréductible, est évalué aussi finement que possible en fonction de tous ces éléments. Accuser le juge en surfant sur sa prétendue responsabilité relève de la manœuvre. La responsabilité du juge est d'appliquer la loi, d'examiner la situation dans son intégralité, en pesant les variables qu'il maîtrise sans pouvoir prédire ce que nul ne peut prévoir. Depuis 2010, le nombre des permissions de sortie ne cesse de baisser pour atteindre le chiffre historiquement bas des 48 481 en 2014 contre 62 266 4 ans avant, c'est-à-dire en 2010. Alors que le nombre de personnes détenues a, quant à lui, fortement augmenté, plus 9% entre le 1er janvier 2010 et 2015. Ces chiffres en disent long sur un contexte de mise en cause répétée de la justice qui tarit les aménagements, mais aussi sur des orientations politiques qui persistent à faire de l'emprisonnement la référence principale. Au contraire, il est urgent de rappeler que l'accompagnement et le travail de réinsertion, notamment par le biais des aménagements de peine et des permissions de sortir, permettent de lutter contre la récidive et ainsi d'assurer la protection de la société. Sur l'ensemble des permissions de sortir accordées chaque année, c'est à peine 0,5% des personnes qui ne réintègrent pas à l'heure leur établissement dans des circonstances bien différentes de cette cavale dramatique. À en croire certains, il faudrait donc généraliser les escortes ou priver quelques 50 000 personnes condamnées du droit à bénéficier d'une permission de sortir et d'envisager un avenir en dehors de la prison. Refuser de préparer la réinsertion des personnes condamnées pour faire de la prison une peine d'élimination sociale est une erreur. Nous, syndicats professionnels de la justice et associations, appelons à résister à l'appel des sirènes et à réaffirmer, dans un système pénal, la nécessité des mesures d'individualisation des peines qui assurent le retour progressif des personnes détenues dans la société, dans l'intérêt de tous. Voilà, donc je pense que ça résume pas mal la bataille idéologique qu'il y a en ce moment entre Christine Taubira, qui est plutôt à gauche sur ce plan-là, et les syndicats de police qui sont plus proches de la droite et de l'extrême droite, hein, qui veulent toujours plus enfermer les gens. La politique carcérale en France ne marche pas, on le sait très bien. Il y a des pays du nord de l'Europe qui ont montré que les peines alternatives pouvaient évider les prisons et diminuer la criminalité. Ce que l'État et les dirigeants français n'ont pas l'air d'avoir compris. Quant aux policiers, on leur demandera même pas de comprendre, puisqu'a priori, ils sont loin de ces idées-là. Seul pour eux, la répression compte. Donc voilà, c'était une bonne synthèse de ce qu'il faut penser sur tout ce qu'on a pu voir arriver comme propagande, notamment des syndicats de police. Alors je continue dans les méchants qui sont armés et je vais parler des chasseurs. Ah, les chasseurs. Alors à Lyon, bien évidemment, on est assez peu confronté aux chasseurs, hein, puisqu'il n'y a pas de gibier. Bon, il y a des pigeons, mais la chasse n'est pas ouverte aux pigeons. Donc je vais donner un petit exemple du pouvoir incroyablement élevé de ce groupuscule que représentent les chasseurs. En ce moment, il y a d'ailleurs pas mal à nouveau de mobilisation des associations pour demander, par exemple, que le dimanche soit un jour de non-chasse pour que les familles puissent retourner se promener pendant les périodes de chasse à la campagne. Or, on a découvert qu'il y a un endroit en Normandie, c'est un bois très exactement, qui a une interdiction aux gens d'aller se promener, sauf si vous êtes chasseur. C'est pas mal comme interdiction. En fait, tout ça est né d'une analyse que il y a sur ce bois-là, pendant les périodes de chasse, la coexistence de promeneurs, de cyclotouristes et de chasseurs. Et que c'est un peu compliqué. Alors c'est compliqué pour qui ? Ben pour les chasseurs. C'est les chasseurs qui sont allés voir le maire, donc c'est le village de la Ferrière aux Étangs, pour lui dire ben c'est pas possible, c'est trop risqué, il peut y avoir des accidents, c'est compliqué, voilà, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'a fait le maire ? Eh ben il a interdit aux non-chasseurs de se promener le samedi matin. Voilà, comme ça les chasseurs peuvent tirer sur tout ce qui bouge. Grosso modo, c'est une privatisation d'un espace accessible à tous, donné à une caste dont l'essentiel de l'objectif est de tuer les espèces vivantes. Hein. C'est quand même assez triste de voir ça. Le lobby de la chasse est quand même très très fort. Il arrive à faire plier un peu tout le monde, du coup de la gauche, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Hein. Faut savoir qu'il arrive à influencer tous les partis. Et ça fait quand même pas mal peur. On rappellera que le 12 octobre dernier, il y a quelques jours, un chasseur a assassiné involontairement, paraît-il, un jeune étudiant qui se promenait. Bon, il l'a confondu avec un chevreuil. Alors, si vous avez jamais vu de chevreuil, tapez sur internet chevreuil, vous allez regarder la gueule d'un chevreuil, et vous sortez dans la rue, vous allez devant une fac et vous regardez la gueule d'un étudiant, et vous allez vous rendre compte que, bizarrement, ça se ressemble pas, c'est même pas compatible génétiquement, la reproduction marche pas, enfin bon, voilà, c'est pas possible. Donc, on va voir ce que la justice fera, mais en général, les accidents de chasse, puisque il paraît que c'est des accidents, hein, c'est le meilleur moyen de faire des assassinats sans être condamné. Il y a plein de règlements de compte, il y a moult règlements de compte dans les campagnes qui se passent par des accidents de chasse. Alors là, c'est pas un règlement de compte, bien évidemment, ils se connaissaient pas a priori d'après les infos qu'on a. Mais en tout cas, laisser des gens armés tirer sur des étudiants paraît quand même être une mauvaise image pour une société un petit peu responsable. Et puis je termine cette partie-là, je dois redonner la parole, avec la petite info conspi. Ça fait longtemps, je fais régulièrement des infos sur les conspirationnistes. Et là, je vais revenir, ça a été un petit peu médiatisé, puisque sont sorties très récemment pas mal de photos. Alors on va parler de ces fameux conspi, qui sont un peu moins dangereux que les autres quand même. Ils véhiculent beaucoup moins d'idées d'extrême droite, quand même, qui disent que les Américains n'auraient pas envoyé d'hommes sur la Lune. Vous savez, il y a plein d'analyses qui expliquent pourquoi les images sont fausses, etc. Donc, voilà. Sauf que, la NASA a autorisé la publication. C'est une structure indépendante hein, qui a récupéré les photos et qui a mis 8000 clichés haute définition, donc qui datent de la NASA des années 60, sur Internet. Et du coup, avec ça, on a plein d'images. Alors, les images ont été retravaillées. On a enlevé les patouilles, hein, parce que c'est des tirages argentiques. Elles sont très belles, on peut tout voir, elles sont en haute définition. Et ça casse un petit peu les théories du complot. Enfin, de toute façon, elles étaient facilement cassables, vous allez me dire. Pourtant, là, hein, si vous allez sur YouTube, il y a encore moult films qui disent, avec preuve à l'appui, que les Américains n'ont pas fait ça. Et ça a été réalimenté il n'y a pas longtemps par les Soviétiques. Non, par les Russes, donc les héritiers des Soviétiques, qui ont relancé cette guerre froide de l'accès à la Lune. Vous savez, dans cette époque-là, hein, c'était vraiment la grosse bataille. Qui arriverait dans l'espace en premier, c'est les Russes. Qui arriverait sur la Lune en premier, c'était les États-Unis d'Amérique. Et donc il y a des élus, notamment un en Russie, qui est allé remettre en cause, hein, c'est un porte-parole russe, la présence effectivement des Américains sur la Lune entre 69 et 72, les fameux alunissages, celui où il y avait Buzz Aldrin et Neil Armstrong notamment. Il a redit que, voilà, d'après lui, c'était faux et que, bon, voilà, il se fait le porte-parole dans cette guerre Russie, États-Unis, d'Amérique au niveau influence mondiale. Il reprend la thèse des conspirationnistes. Pourtant, les nouveaux clichés, alors vous pouvez les voir, on peut voir plein de choses. Alors vous savez, il y a les fameuses théories du drapeau. Alors le drapeau ne peut pas flotter et il n'aurait pas d'ombre sur les photos, sur le film montré. Alors en fait, il y a plein de photos qui montrent que le drapeau flotte pas du tout, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, hein, dès qu'on le touche, en fait, il y a une inertie énorme, donc on arrive à faire bouger les choses. Quant à l'ombre, elle est présente sur moult photos, en fait. Du coup, cette fameuse théorie qu'il n'y a pas d'ombre parce qu'ils auraient fait ça en studio, marche pas du tout. Il y a la théorie des conspis qui dit, mais les traces, on les voit jamais, on les voit pas. Alors, en fait, d'abord, il faut leur rappeler à ces imbéciles qu'il n'y a pas de télescope qui permet de voir la Lune de manière assez précise pour qu'on voit les traces de pas qu'ont laissé les astronautes américains. C'est pas possible. Par contre, ce qu'ils devraient savoir ces gens-là, c'est que plein d'autres agences ont envoyé des missions sur la Lune, proche de la Lune, qui ont pris des photos dans lesquelles on voit les traces de pas. Et pas que la NASA, d'autres agences internationales. Voilà. Donc, et on a plein de photos à l'appui qui démontrent ça. Quant à la fameuse théorie de la lumière, celle où sur certaines photos, il y a ce qu'on appelle un flare. Donc là, il y a certains conspis qui connaissent très peu la photo et la science qui disent, mais regardez, c'est la preuve qu'il y a en fait une lumière de studio, une lampe qui éclaire la scène. Bon, bien évidemment, ils n'ont jamais dû faire attention aux photos, à regarder dans un appareil réflexe, hein, où on a vraiment ce qui se passe à travers l'objectif, et que quand la lumière arrive sur un certain angle, il apparaît ces traces là, qui sont pas du tout le soleil, mais qui sont le flair, hein, c'est un reflet, c'est un phénomène optique que je vous laisserai étudier si vous voulez l'étudier. Et qui, voilà, c'est de ça dont il est question, bien évidemment. Donc voilà, alors, je pourrais aller encore plus loin. Il y a plein de choses qui nous rappellent que, même sur les théories comme ça, complotistes, qui ont pas beaucoup d'impact, hein, qui sont fantaisistes, on peut les casser aussi, parce que c'est tout le discours conspirationniste qu'il faut attaquer systématiquement, pas que celui qui arrive à dire qu'à la fin c'est les juifs qui ont fait une connerie, hein, comme la majorité des sites complotistes qui sont aussi antisémites apportent toujours ça, finalement, en conclusion. Enfin, en gros, c'est le Mossad, hein, qui fait les choses. Souvent, c'est ça. Non, même dans les trucs aussi anodins que l'homme qui marche sur la Lune, je vous laisserai regarder. Il faut toujours casser ce discours-là. Et puis, pour terminer, ce porte-parole du Kremlin, il a dit, bon, ils font des bourdes, hein, les conspis. De toute façon, on n'a jamais pu étudier de roches et on n'a jamais vu de roches. Bizarrement, ils n'ont pas ramené de roches de la Lune. On rappelle que c'est faux. Même en France, on peut avoir la preuve, puisqu'il suffit d'aller demander aux chercheurs du CNRS de Poitiers dans la Vienne, qui ont étudié en 2009 des extraits lunaires qui sont issus de ces campagnes-là de recueil de roches de la Lune. Donc voilà, c'est pour dire qu'il faut lutter quand même encore et systématiquement contre ces conspis rationnistes.
Oui, mais tu n'y comprends rien alors, en fait. Ah bon. Voilà, tu parles tout de suite avec des éléments qui font un peu science, là. Tu utilises la science pour prouver des arguments qui sont pourtant imparables, je trouve, de la part de ces gens. Enfin bon, on va parler maintenant de droit d'auteur. On va parler du journal d'Anne Frank.
Qui a existé.
Je suis sûre que vous qui nous écoutez, pour beaucoup, vous avez lu le journal d'Anne Frank. Ce journal écrit entre juin 42 et août 44. Anne Frank, avec sa famille, s'était réfugiée dans les combles d'une maison à Amsterdam. Elle a été déportée en camp de concentration. Elle est morte à 15 ans du typhus. C'était en mars 45. Et ce journal a été largement lu. Et alors, il y a une révolte qui gronde depuis la semaine dernière. Le fonds Anne Frank, qui détient les droits patrimoniaux du journal d'Anne Frank, a publié un communiqué qui a un peu mis le feu aux poudres. Alors, ce fonds Anne Frank a été fondé en 1963 par Otto Frank, le père de Anne. Et le fonds commence à nous annoncer que le journal d'Anne Frank ne tombera pas dans le domaine public au 1er juin 2016, comme nous l'attendions tous et toutes. Alors, les droits d'exploitation pourraient courir jusqu'en 2030-2050. Alors, on va revenir sur toute cette affaire. Je vous rappelle d'abord qu'il y a deux types de droits d'auteur, les droits patrimoniaux et le droit moral. Le droit moral, c'est un droit qui est perpétuel, inaliénable. Ça permet, par exemple, à un artiste d'aller dire au Parti des Républicains de droite « Je vous interdis d'utiliser ma musique pendant votre meeting ».
Parce que moralement, il réprouve les idées véhiculées par les Républicains, etc. C'est une bonne chose, ce droit moral.
Alors, c'est un droit en France qui avait vraiment été créé pour protéger les œuvres et les artistes. Aux États-Unis, on va retrouver un peu le principe, on est plus sur un droit de propriété, c'est pour ça aussi qu'on parle de licence, mais enfin, globalement, en Europe, on est un peu sur ce principe. C'est-à-dire que voilà, il y a ce droit moral et ces droits patrimoniaux qui sont, donc voilà, je vous dis un petit peu plus droit de propriété aux États-Unis. Le droit de patrimoniaux, c'est plus l'exploitation commerciale. Mais vous pouvez aussi détenir des droits patrimoniaux sur une œuvre et décider de jamais vouloir exploiter commercialement cette œuvre. Ça, c'est une décision qui vous appartient. Alors, en France, comme dans beaucoup d'autres pays européens, les droits patrimoniaux durent 70 ans après la mort de l'auteur. C'est ça l'idée.
Ce qui est beaucoup déjà.
Ce qui est beaucoup. Alors, le fonds Anne Frank a donc fait ce communiqué. Alors, sur quoi se base-t-il ? Sur des éléments un petit peu discutables. On va un petit peu y revenir. Il faut se rappeler qu'il y a eu deux versions de ce journal Anne Frank. Une première version qui a été publiée par Otto Frank en 1947 en néerlandais. L'ouvrage a été traduit dans plus de 70 langues. En 1950, c'est paru chez Calman Levy. Et c'est cette version qu'on a pratiquement tous lue en livre de poche, hein, la plupart du temps, bien évidemment. Alors sur cette première version publiée, le père Otto Frank a été crédité en tant que co-auteur. Il faut savoir que Otto Frank a fait des modifications sur le journal de sa fille. Il a fait plutôt des modifications éditoriales. Hein. Maintenant, quand on analyse un petit peu le travail qu'il a fait sur l'original, c'est pas tant pour de la censure, comme souvent ça avait été dit, ou parce qu'il y a des choses qui pouvaient choquer, mais c'est qu'a priori, il a quand même voulu mettre en avant plutôt la situation de sa fille, la vie dans cet enfermement, plutôt que les écrits plus adolescents qui pouvaient concerner le journal.
Quelque part, ça reste dommage quand même.
C'est le choix qu'il a fait. Voilà, il a voulu certainement aller aussi dans un souci d'efficacité, hein, dans ce travail de coupe. Voilà. Donc, il a été crédité à l'époque de co-auteur. Alors, c'est déjà en soi une question. Est-ce que Otto Frank est un co-auteur? Est-ce qu'il peut être perçu comme tel? C'est vrai que c'est un peu délicat quand même, parce que il a fait un petit peu qu'alléger finalement l'ouvrage. Si c'est dans un objectif éditorial et de lisibilité, on peut quand même dire que c'est Anne Frank qui en est l'auteur au final. Et puis il y a cette voilà, donc ce qui fait que bah ça pourrait repousser évidemment ces droits d'auteur, puisque Otto Frank,
oui, il est mort quand
en 1980. Ce qui veut dire que ça repousse tout ça jusqu'à 2051 pour que ça tombe dans le domaine public.
Oui, c'est quand même dommage que c'est pas qu'une œuvre artistique, c'est un document historique, c'est un truc fort, fondamental, et donc presque ça devrait être d'office dans le domaine public une œuvre aussi forte.
Ouais, mais c'est surtout aussi qu'il y a quand même 30 millions d'exemplaires qui ont déjà été vendus. Donc effectivement, il y a pas mal de voix qui s'élèvent pour dire, comme tu le dis, que c'est un ouvrage important. Et qu'en plus de ça, il y en a déjà beaucoup qui ont été vendus. Donc le fond est un petit peu accusé de vouloir se faire encore du pognon.
C'est ça, ouais.
Sur ce journal d'Anne Frank, puisqu'il y a cette deuxième version en parallèle, qui est une édition complète et annotée, qui est parue dans les années 80. Donc là, sur cette œuvre, sur le régime des œuvres posthumes, l'ouvrage est protégé pendant 50 ans, ce qui veut dire que ça repousse jusqu'à 2030. Hein, donc on a d'un côté une seconde édition parue dans les années 80, dont les droits d'auteur courent jusqu'en 2030, les droits patrimoniaux. Et puis de l'autre côté, cette première édition qu'on connaît tous et toutes, qui date de 47, et que là, le fonds aimerait bien pouvoir conserver une exploitation commerciale jusqu'en 2050. Donc, ça fait râler, mais il faut savoir que c'est pas la première fois. C'est-à-dire que les ayants droit, de temps en temps, essayent de trouver des solutions pour pouvoir un petit peu allonger cette période de perception de droit. Et ils sont parfois, bien malheureusement, soutenus par les éditeurs qui vont les aider à sortir une variante, une nouvelle version. Alors, ça va être une version annotée, une nouvelle traduction. Enfin, toutes les excuses sont bonnes un petit peu pour conserver des droits et continuer, évidemment, à amasser de l'argent. Parce qu'évidemment, hein, on parle souvent de best-seller, hein, de grandes réussites littéraires. Hein, ça laisse la concurrence loin, hein, parce que évidemment, ils peuvent pas non plus exploiter. Donc voilà, ça met quand même tout le monde un peu mal à l'aise, hein, la situation dans laquelle évolue le fonds Anne Frank. Certains se questionnent pour savoir si Otto Frank aurait même voulu que aujourd'hui on en soit là. C'est une affaire de gros sous, comme toujours. Aujourd'hui, vous pouvez trouver le journal d'Anne Frank au livre de poche pour pratiquement 7 euros 10, je crois. Il faut savoir que il y a un maître de conférence en sciences de l'information, Olivier Herzschild, qui a mis en ligne tout à fait légalement les deux versions sur son site internet, sur son blog. Ça a été relayé par un certain nombre d'autres sites, comme par exemple Rue 89. Donc voilà, c'est un peu aussi l'occasion de relire une version originale, par exemple, si vous l'avez jamais fait. Bon, c'est voilà, c'est toujours la bataille des droits d'auteur dans ces affaires-là sont toujours bien difficiles parce que c'est vrai, comme tu le disais, c'est une œuvre qui devrait être maintenant être largement à disposition de tous et toutes.
Oui, et puis gratuitement. Hein, s'il n'y a pas de droits d'auteur, hein, les livres coûtent beaucoup moins cher.
Ben c'est surtout
on peut avoir des tirages à quelques euros et ça permet du coup arrête de répandre plus facilement cette culture.
Ça permet à tout le monde de se saisir de la diffusion. Mmh. Et à l'heure du numérique et du téléchargement, très sincèrement, c'est vrai que avoir des œuvres à diffuser gratuitement et librement, c'est quand même vachement intéressant.
Alors on va parler un petit peu d'écologie maintenant et de vélo, puisque nous avons eu la première étape, on va dire, d'une grosse étude sur l'impact du vélo en ville, pour savoir si c'est profitable à la santé ou pas. Donc c'est une étude qui était relayée la semaine dernière par l'Institut de veille sanitaire, donc en France, mais qui est issu d'un consortium qui s'appelle TAPAS. Alors TAPAS, ça ne veut pas dire que ça se déroule en Espagne, même si vous allez voir, il y a un lien. TAPAS, ça veut dire Transportation Air Pollution and Physical Activities. Donc c'est un acronyme, hein, dirons-nous, dans le langage correct. L'étude qui a été révélée, c'est partiel, hein, c'est la première étape, concerne la ville de Barcelone et l'impact de la mise en circulation de vélos en libre-service, équivalent à ce qu'on a à Lyon, sur la mortalité et sur les risques concernant les cyclistes. Vous savez, il y a une campagne qui est à nouveau en cours. Là, le gouvernement, il répond un peu à certaines associations sécuritaires sur le vélo qui disent que le vélo en ville, c'est très dangereux et qu'il faut mettre le casque, se protéger, avoir un scaphandre, je ne sais quel argument ils ont derrière. Et ça fait peur aux usagers et ça limite le développement du vélo en ville. Ben, l'étude là, qui est faite donc par des scientifiques, elle démontre le contraire. Elle démontre, à travers ce qui s'est passé, cette expérience, on va dire, à Barcelone, que le vélo en ville est très positif sur la santé. Alors, dans leur calcul sur l'année écoulée, ça aurait économisé 12 vies par an. C'est pas beaucoup 12 vies, vous allez me dire. Mais c'est déjà 12 vies par an, c'est déjà pas mal. Et ça aurait augmenté de 0,03 décès dus aux accidents de circulation et de 0,13 décès liés à une inhalation plus importante de polluants pendant les trajets. Hein, notamment ceux qui forcent à vélo, ils respirent plus. Donc si vous regardez, c'est 12 vies d'économiser, 0,03 à cause de la pollution, des accidents qui seraient en décès et 0,13 en décès. Donc on n'a même pas, vous avez vu, on n'a même pas un mort par an en fait, dû à cette augmentation de la circulation des cyclistes. Donc il y a toute une étude qui a été confirmée. Enfin là c'est une nouvelle étude, mais il y en a eu plein d'autres, notamment une qui avait été relayée par l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie, il y a quelques années, qui montrait la même chose, hein, que le développement du vélo en ville, malgré le petit risque d'accident et qui est pas négligeable, mais qu'on peut diminuer de manière drastique en faisant des pistes cyclables, notamment. Voilà, est peu important par rapport aux bienfaits sur la santé de la pratique du vélo en ville. Puis d'ailleurs, l'étude de l'ADEME avait rappelé que l'endroit le plus pollué en ville, c'était les intérieurs des automobiles. Donc beaucoup plus finalement que ce que peuvent respirer les piétons ou les cyclistes à côté des voitures.
Alors, vous savez peut-être que la ville de Montréal est souvent désignée comme une ville verte. Voilà, c'est une ville où on dit que c'est plutôt vert, c'est plutôt écolo. Mais alors, là, il y a une petite affaire qui a mis un peu à mal cette réputation, puisque la ville de Montréal s'apprêtait à déverser volontairement 8 milliards de litres d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent. Beaucoup d'eau, hein, quand même, tout ça. Alors, il faut quand même savoir que ce fleuve Saint-Laurent, il est très important. La majeure partie de la population du Québec vit le long du Saint-Laurent. Il y a une faune assez importante. Les poissons sont assez nombreux. Et puis, le Saint-Laurent fournit 45% de l'eau potable consommée par les Québécois. Donc, le Saint-Laurent, les gens y tiennent. Alors, il y a eu un petit peu des oppositions face au maire de Montréal, Denis Coderre. Il avait annoncé que l'opération de déversement se déroulerait du 18 au 25 octobre. Et tout ça, c'était pour permettre des travaux dans le secteur où se trouve une conduite très importante qui achemine les eaux usées vers une station d'épuration. Donc, cette conduite étant coupée, la solution trouvée était donc de déverser ces eaux usées dans le Saint-Laurent. C'était facile, c'était simple. Alors, d'après le maire de Montréal, c'était la seule option. On ne pouvait pas faire autrement. Et de toute manière, ça ne craignait rien. des eaux usées n'avait aucun impact sur l'environnement, sur l'eau. Vraiment, il n'y avait vraiment pas à s'en faire. C'est pas le gouvernement canadien a pas été d'accord puisqu'il a suspendu indéfiniment le projet de la mairie de Montréal. C'était mardi. Le gouvernement canadien estimait qu'il y avait quand même des répercussions environnementales qui risquaient d'être assez grandes. Il y a donc une nouvelle étude qui a été réclamée. Alors, face à ça, le maire de Montréal s'est beaucoup énervé. Il a beaucoup braillé, il a agité les bras et il accuse le gouvernement d'utiliser ce dossier à des fins électorales. Donc voilà, enfin tout ça pour dire que heureusement ce dossier a été bloqué parce que c'était quand même une assez grosse affaire environnementale qui risquait de se dérouler sur le fleuve Saint-Laurent.
Alors je vais finir mon info sur la pollution atmosphérique qui n'était pas finie, avec la revue Nature, donc une des plus grandes revues scientifiques qu'on connaisse, une revue à comité de lecture, donc une revue sérieuse, qui a publié la plus grosse étude sur la pollution atmosphérique mondiale et qui casse un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir. Alors à l'heure où le gouvernement a augmenté la fiscalité de 1 centime sur le diesel et a diminué de 1 centime sur l'essence, ce qui aura d'ailleurs assez peu d'impact sur le court terme. C'est intéressant de voir ce qu'il en est de la pollution atmosphérique sur la Terre. Ils ont fait l'ensemble des villes, on va dire, essentiellement, de la planète. Alors, grosso modo, les trois quarts de la pollution atmosphérique, c'est en Asie, bien sûr, qu'elle y est, et notamment en Chine et en Inde. C'est les deux endroits les plus pollués de la planète. Mais les grandes métropoles européennes n'y échappent pas du tout. Alors, grosso modo, sur leurs calculs, la mortalité annuelle, c'est à peu près 6% liée au problème atmosphérique, à la pollution atmosphérique. C'est-à-dire que c'est plus que le sida et le paludisme associés. Donc la pollution atmosphérique tue plus que le sida et le palu. Ce qui est, ça permet d'avoir un petit peu des chiffres en tête. Donc il y a tout, je vais pas arriver à parler jusqu'au bout là, je crois. Il y a tout un bilan qui est fait sur d'où vient la pollution. Alors dans les pays industrialisés comme l'Europe et le nord des États-Unis, la principale pollution atmosphérique, c'est pas la combustion des moteurs diesel, c'est l'agriculture. C'est assez incroyable, même quand on n'est pas au bord de zones agricoles. En fait, l'agriculture intensive, hein, pas le petit producteur à côté de chez vous, l'agriculture intensive libère beaucoup d'ammoniac qui se transforme en nitrate et en sulfate d'ammonium et qui ont un impact important. Au niveau des particules, on rappelle que habiter auprès d'un champ cultivé, c'est aussi un gros facteur de risque de pollution aux microparticules émises par l'agriculture productiviste. Donc, ça rappelle que c'est pas forcément l'automobile qui est responsable de tout. Même si après, on va voir que ça l'est quand même pas mal. Alors, sur l'Allemagne, par exemple, ils ont expliqué 40% de l'Allemagne, de la pollution atmosphérique de l'Allemagne, de la Russie ou de l'Ukraine est due à l'agriculture. Donc, chez nous, le chiffre est encore un peu plus important parce qu'on a encore un peu plus d'agriculture productiviste. Alors, sur les émissions liées aux véhicules, donc leur impact est sur l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France à peu près de 20%. Donc il y a quand même 20% de la pollution atmosphérique qui est liée aux véhicules, c'est-à-dire aux voitures et aux camions. On ne parle pas de la pollution des avions qui se répand de manière très différente, puisqu'on est on n'est pas du tout au sol. Sauf quand on habite auprès d'un aéroport où là la pollution est très très importante par contre. Donc voilà, bon, je vais pas détailler toute l'étude parce qu'il nous reste que 2 minutes, mais grosso modo la pollution est généralisée de plein de manières différentes suivant les pays, suivant le développement des pays. C'est l'agriculture qui est importante d'un côté, de l'autre côté c'est plus le transport, de l'autre côté c'est en Chine notamment le chauffage au bois avec des combustions qui sont pas dans des poêles mais dans des foyers ouverts avec des très mauvaises combustions, et c'est la principale cause d'émissions de particules, par exemple, alors que chez nous, c'est le diesel qui est la principale cause de particules. Enfin, voilà, une étude très intéressante, qui remet un petit peu les pendules à l'heure, et qui voit qu'il y aurait plein de moyens d'action pour sortir de cette pollution environnementale liée environnementale sur l'atmosphère. Et puis pour terminer, un petit agenda ultra rapide, t'as deux, trois trucs à dire, il nous reste 1 minute.
Vas-y.
Et ben, moi, j'ai juste dire Donc demain, quelques rassemblements qui sont liés au week-end contre les crimes sécuritaires, les violences policières et le racisme d'État. Donc demain à 20h à l'atelier des Canulars, une soirée débat autour des crimes sécuritaires et des violences policières. Le 17 octobre, la manif à 8h au Minguette, c'est la marche pour l'égalité contre le racisme. Et à 18h, rendez-vous au pont de la Guillotière pour cette commémoration du 17 octobre 61. Vous rappelez, les CRS, enfin les forces de répression françaises ont massacré à Paris des manifestants essentiellement maghrébins. Pour samedi, un rassemblement en salle 17 octobre contre la colonisation israélienne sur place de la République.
Et puis moi je voulais envoyer les gens dimanche 18 octobre à 14h à la ruche des citoyens à Villefranche pour voir le film militant contre la résignation. Je lutte donc je suis à la ruche des citoyens à Villefranche.
Et puis dernière chose, le débat à la griffe qui a lieu samedi à 15h. Ça s'appelle la chaîne mondiale du travail reproductif, c'est sur la reproduction et c'est Laurence Tain qui est invitée pour en parler à 15h à la griffe rue Sébastien Griffe.
Eh ben on va vous laisser pour ce soir. On n'aura pas parlé nucléaire, ce sera pour une prochaine fois. On vous laisse avec Papillon. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite une bien bonne soirée. Ciao.